Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ouvrons la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 1er. Luc 13, verset 1er. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouvant pas. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Voilà, cet après-midi, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce passage afin de comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Ce vers quoi il veut nous conduire. Nous voyons dans ce passage des hommes qui sont venus vers Jésus-Christ et qui se posaient des questions par rapport à des personnes qui étaient décédées d'une manière tragique. Des Galiléens qui étaient morts d'une manière vraiment particulière. Et ils se posaient toutes sortes de questions par rapport à cela. Et Jésus va leur poser aussi une question. Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Et il va répondre aussitôt, non. Non, ce n'était pas parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs. Et il va appuyer cela en donnant une deuxième expérience que des personnes, malheureusement, ont vécue. Une deuxième expérience où des personnes sont décédées aussi d'une manière particulière, sur qui une tour est tombée, c'est 18 personnes. Et il va poser la même question: pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Et la réponse sera la même: non. Non, ce n'était pas parce que ces personnes étaient plus coupables que les autres qu'ils sont morts de cette manière-là, comme ces Galiléens, ce n'était pas parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs. Jésus explique que ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas la manière dont on meurt qui est important, mais ce qu'il y a de plus important, c'est de se repentir avant de mourir. C'est ce qu'il y a de plus important. Et il va utiliser ces circonstances dramatiques, les expériences de ces personnes, ce qui se passait à ce moment-là, ce que ces personnes avaient réellement vécu, pour leur donner de réaliser cet enseignement très important, capital, de se repentir avant de mourir. Voilà ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent se poser des questions à cause de certaines circonstances tragiques dans la vie de certains proches, certains décès qui peuvent nous paraître étonnants, qui peuvent nous paraître entre guillemets pas normal. On entend des personnes qui sont décédées trop tôt, mais vous savez, Dieu est parfait. Il contrôle tout, il est souverain. Et cet après-midi, je ne suis pas là pour donner la réponse à tout, mais pour donner ce qu'il y a de plus important pour Dieu afin de saisir sa grâce. Parce que s'il est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il est vrai aussi que comme on l'a chanté, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il peut y avoir des déchirements qui peuvent nous paraître anormaux, mais Jésus est celui qui console les cœurs qui sont affligés. Il est celui qui restaure, il est celui qui relève, il est celui qui délivre, il est celui qui guérit. Hein, qui guérit de toutes sortes de maladies, qui guérit les cœurs brisés. Et il a tout pouvoir pour cela. À lui, tout est possible. Mais maintenant, Jésus a donné cet enseignement qui est capital et qu'il nous faut bien saisir et bien comprendre pour chacun d'entre nous cet après-midi. J'ai mis comme titre, par rapport à cela justement, comme titre de ce message, « Se repentir ou périr ». Cet après-midi, on a le choix. Se repentir pour saisir la grâce de Dieu, pour saisir son secours, pour saisir la réponse à tous nos besoins et saisir la vie éternelle, la vie pour l'éternité, avoir l'assurance que notre nom est inscrit dans le livre de vie et que s'il nous arrive quoi que ce soit, parce qu'on le sait, comme on l'a chanté, notre vie est si courte, qui ne sait si demain. Et on ne sait pas ce qu'il se passera demain, on ne sait pas ce qu'il se passera en sortant de ce lieu. Mais le Seigneur est celui qui veut nous donner cette assurance, l'assurance de la vie éternelle, d'être en paix avec Dieu, d'être en paix pour l'éternité et de pouvoir passer l'éternité dans sa présence. Et pour cela, il nous appelle à la repentance. C'est la marche, c'est l'attitude obligatoire. C'est le passage obligatoire pour saisir la grâce de Dieu, la repentance. Parce que si vous ne vous repentez, c'est ce que Jésus-Christ disait à ces hommes, à ces personnes, vous périrez tous. Et il parlait, oui, de la mort physique, mais bien plus, de la mort éternelle. Parce que si d'un côté, oui, il y a la vie éternelle dans le paradis, dans la présence de Dieu, qui nous est offerte à chacun cet après-midi, par grâce, par amour, par miséricorde, bien de notre côté, si on refuse de choisir et d'accepter la grâce de Dieu, il y a la mort éternelle, l'enfer, loin de Dieu, privé de la présence de Dieu, un lieu de tourment et de souffrance éternelle. Et cet après-midi, rendons-nous bien compte de cela et considérons la grâce de Dieu, cet appel, parce que Dieu nous appelle. De la même manière qu'il a donné cet enseignement à ces hommes qui sont venus, qui étaient là dans toutes sortes de questions par rapport à ces hommes qui étaient décédés, le Seigneur est celui qui nous amène à aussi considérer ce qu'il y a de plus important ici-bas. Cela faisait longtemps que Jésus parlait au peuple juif, au peuple d'Israël. Cela faisait longtemps qu'il leur parlait de la repentance, de la conversion. Et pour la grande majorité, il n'y avait pas eu de changement. Pour la grande majorité, ils n'avaient pas saisi. Et c'est pour cela que par la suite, Jésus va insister en donnant cette parabole. Et on voit que cette parabole est liée, qu'elle vient comme en conclusion de ce passage aussi. Il dit aussi cette parabole, donc on voit que c'est lié avec ses expériences. Et une parabole, c'est quoi? C'est une image terrestre, une image de la vie courante pour parler de réalité spirituelle, de réalité biblique. C'est ce que Jésus va faire. Il va utiliser une image courante en donnant cette explication de cet homme qui avait un figuier qui était stérile, qui ne portait pas de fruits. Donc on voit dans cette parabole le maître de la vigne, on voit le vigneron et on voit un figuier stérile. Et cette parabole n'est pas compliquée à comprendre. Ce qu'il nous faut saisir de cette parabole, c'est que le maître de la vigne, c'est Dieu. Le maître de la vigne, c'est Dieu. La vigne stérile, ce sont tous ceux qui ne réagissent pas à l'écoute de la parole de Dieu. Et le vigneron, c'est Jésus-Christ. Le vigneron, c'est Jésus-Christ. Et on voit que dans cette parabole, elle commence comme cela. Il y avait une attente du maître de la vigne. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint y chercher du fruit et n'en trouvant pas. Il y avait une attente. Le maître de la vigne avait une attente qui était normale, une attente que l'on aurait tous à sa place. Quand vous cultivez, je pense que peut-être certains d'entre vous ont un jardin, et quand vous plantez des tomates, par exemple, vous vous attendez à avoir des tomates et à recueillir des tomates et des bonnes tomates, j'imagine. C'est mieux. C'est normal. C'est l'attente normale d'un cultivateur. C'est ce qui nous montre que pour chacun d'entre nous, il y a une attente dans le cœur de Dieu. Et je ne sais pas vos attentes à vous cet après-midi, mais je connais, on connaît les attentes de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Peut-être que vous avez des attentes dans votre vie personnelle, des besoins précis, concrets, de paix, de restauration, de délivrance, de repos, de joie, de bonheur. Il y a des attentes, on a tous des attentes différentes les uns des autres, mais Dieu a des attentes aussi, des attentes envers chacun d'entre nous. Et il attend, il t'attend. La Bible nous dit que Dieu use de patience envers chacun d'entre nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. On le voit clairement dans sa parole. Il use de patience envers chacun d'entre nous. Et encore cet après-midi, nous sommes dans ce temps de la grâce de Dieu, ce temps où nous pouvons saisir la grâce de Dieu. Le maître de la vigne attend. Cela faisait 3 ans, vous avez vu ? Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. » Et certains commentateurs parlent du ministère de Jésus-Christ qui a duré 3 ans et qui justement face au peuple juif, au peuple d'Israël, n'a pas vu de grand changement. Alors qu'il y avait cet appel incessant à la repentance, à la conversion qui s'est fait de plusieurs manières, au travers de guérisons, au travers de délivrances que Jésus a opérées, au travers de consolations, au travers de relèvements, de miracles extraordinaires. Il y avait ce message lié, ce message que Jésus-Christ a cessé d'apporter jusqu'à la fin de son ministère. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et cette image de la vigne, on la retrouve à plusieurs reprises dans la parole. À plusieurs reprises, on retrouve cette image de la vigne. Et il y a un passage particulier que j'aimerais prendre avec vous dans Ésaïe chapitre 5. Il y a un passage dans Ésaïe chapitre 5, chapitre 1er, qui nous dit, à la fin du premier verset, il est écrit: Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Amen. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Cet après-midi, j'aimerais que l'on s'arrête sur cette question. Qu'on se pose cette question. Pourquoi cette vigne a produit des fruits infects, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que cette vigne produise du bon fruit. Hein, vous avez vu, elle était sur un coteau fertile, il y avait des pierres qui avaient été ôtées, c'était un cépage délicieux, il y avait une tour qui avait été bâtie pour la protéger, il y avait une cuve pour recueillir l'eau qui avait été creusée. Tout était là. Et pourquoi cette vigne n'a pas produit de fruits? Eh bien, bien, cette image parle de nos vies. Cette image nous montre que Dieu a fait tout, que Dieu a tout fait pour que nous puissions porter du fruit, que Dieu a fait tout pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions porter du fruit. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu a tout fait pour que nous puissions le rencontrer, pour que nous puissions être utiles et utilisés entre ses mains, et pour que nous puissions porter du fruit à sa gloire. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi cette vigne n'a pas produit de fruits? Quel fruit je porte dans ma vie? Quel fruit je porte? La Bible nous parle du fruit de nos lèvres, du fruit de nos pensées, du fruit de notre cœur. Quel fruit y a-t-il dans ma vie? Car la Bible nous dit, on connaît l'arbre par le fruit. Et ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. Quel fruit je porte dans ma vie? Peut-être qu'à vos yeux, vous portez de bons fruits. Peut-être que pour vous, votre vie est fructueuse parce que vous avez une bonne situation professionnelle, sociale, familiale. Peut-être parce que vous faites toutes sortes de bonnes œuvres, donnez votre argent aux pauvres, hein, toutes sortes de bonnes actions. Peut-être que pour vous, vous portez de bons fruits. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que sans Dieu, il est impossible, que sans Jésus-Christ, il est impossible de porter de bons fruits. Et c'est Jésus-Christ qui dira justement dans Jean chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Jésus, dans ce passage, encore une fois, parlait de cette image du cep, de la vigne, des serments. C'était là l'image d'être attaché à Jésus-Christ pour porter du fruit. Il n'y a uniquement de cette manière-là que l'on peut porter de bons fruits. C'est ce que la Bible nous dit. En dehors de cela, il est impossible, impossible de porter de bons fruits. Pourquoi? Parce que la vigne a été infectée. J'ai recherché qu'est-ce qui pouvait infecter une vigne. Parce que vous avez vu cette question. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Et je me suis demandé qu'est-ce qui peut amener justement cette infection dans une vigne. Et alors en recherchant très simplement sur Internet, sur des sites d'agriculteurs, tout cela, on peut voir que les cultures de vignes sont des cultures sensibles. Et que la sensibilité des vignes varie d'un cépage à un autre. Mais aucun n'est immunisé naturellement. Aucun n'est immunisé naturellement. Il faut tous qu'ils soient traités. Il y a cette nécessité de traiter la vigne pour qu'elle soit protégée de toute infection. Et en cas d'absence de traitement ou de non-réussite du traitement à cause de la météo, un plant peut être infecté par tout germe transporté par le vent. Les zones infectées vont à leur tour contaminer les autres parties du plant et ou les plants voisins, la maladie s'étend ainsi de proche en proche. Le plant touché perd de sa vigueur et produit moins de raisins d'un goût dénaturé. Si l'absence de traitement se poursuit, comme par exemple dans les parcelles abandonnées, la maladie progresse d'année en année et ces plants deviennent des foyers de contamination pour les autres parcelles, même à grande distance. On est alors obligé de les arracher. On est alors obligé de les arracher. Vous pourrez retrouver ça sur Wikipédia. C'est ce qui nous montre l'attitude des agriculteurs par rapport à leurs vignes. Et dans notre région, je sais qu'il y a eu plusieurs difficultés dans certaines années justement par rapport à des infections de ce genre-là. Pourquoi cette vigne a été infectée? Je le disais, cette image parle de chacun d'entre nous. Et cette image a ses limites. Parce que une vigne, un figuier, comme on a vu dans la parabole de Luc 13, n'a pas le choix. Un arbre physique, il subit les conséquences de la mauvaise météo, de ce qu'il peut se passer, il subit. Par contre, nous avons tous le choix. Et Dieu nous a créés libres. C'est là la grande différence avec ces images. Et la Bible nous apprend que nous avons tous choisi. Nous avons tous choisi le péché. Nous avons tous choisi le mal. Nous avons tous manqué le but, manqué d'obéir au commandement de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et c'est ça qui amène cette infection dans nos vies, dans nos cœurs, et qui pollue tout, qui a tout contaminé, et qui rend le fruit de nos vies infect. Sans Dieu, sans Jésus-Christ. Le fruit de nos vies est infect aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et quel qu'il soit, qu'on soit, comme je le disais, un bon père de famille, une bonne situation, qu'on fasse de bons choix ici-bas, sans Jésus-Christ, le fruit est infect. Parce que tout a été contaminé. Alors quoi faire ? Quoi faire d'une pareille vigne? J'en reviens aux pieds de tomates. Qu'est-ce que vous feriez des pieds de tomates qui produisent pas ou qui produisent de mauvaises tomates? On l'a lu et dans cette aussi explication de ce que font les vignerons par rapport à la vigne, c'était clair. On est alors obligé de les arracher. Il y a cette obligation. On est obligé de les arracher. Mais savez-vous ce que Dieu a fait pour chacun de nous, pour vous? Alors oui, qu'il y avait cette condamnation sur chacun d'entre nous à être arraché, à être ôté, à être jeté, à être brûlé, parce que tout était contaminé. Dieu n'a pas agi de cette manière. Mais par amour pour chacun d'entre nous, il a envoyé Jésus-Christ, qui représente le vigneron dans cette parabole. Et nous voyons là l'attitude du vigneron qui va parler au maître. Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Et nous voyons que dans cette parabole, donc le vigneron va faire cette prière, il va demander une année de sursis. Mais il va aussi s'engager à donner au figuier ses soins. Il va s'engager à donner de l'engrais, tout ce qui est possible pour qu'il y ait de bons fruits, pour qu'il y ait un changement, une transformation. Et Jésus-Christ a tout accompli pour cela. Jésus-Christ a tout accompli pour chacun d'entre nous, afin qu'il y ait aussi ce changement, cette transformation dans nos vies, dans nos cœurs. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé lui-même en venant sur cette terre, en prenant sur lui notre condamnation. Cette condamnation, c'était obligé d'être arraché, c'était obligé d'être brûlé, c'était obligé d'être détruit. C'est Jésus-Christ qui a pris notre condamnation. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation en mourant pour nous à la croix, en donnant sa vie en sacrifice. Et cet après-midi, il nous appelle simplement à recevoir sa grâce, à placer notre foi en lui. Parce que maintenant, quel est le fruit que Dieu attend? On a entendu que Dieu avait des attentes. Quel est le fruit que Dieu attend de chacun d'entre nous? Eh bien, la repentance. C'est là le seul fruit. Ce n'est pas faire toutes sortes d'œuvres. Ce n'est pas compliqué cet après-midi pour recevoir la grâce de Dieu, mais c'est la repentance. C'est là le fruit, le seul fruit auquel Dieu nous appelle. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Oui, cet après-midi, Dieu attend que tu te repentes. Alors cet après-midi, ne repars pas de ce lieu justement sans avoir fait cette démarche, sans t'être tourné devant lui, sans avoir réglé ce problème. Parce qu'il y a des conséquences. Parce que dans cette parabole, on voit que malgré l'amour de Dieu à notre égard, malgré sa grâce, malgré sa patience, il y a cet avertissement. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Considérons encore ces paroles. Vraiment pour terminer, considérons vraiment ces paroles. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il y a des conséquences pour tous ceux qui refusent obstinément de se repentir, d'accepter la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de lui obéir et de marcher dans ses voies. Il y a des conséquences. Sinon, tu le couperas. Cet après-midi, que l'on puisse, ne pas utiliser davantage la patience de Dieu à notre égard, mais que nous puissions vraiment recevoir sa grâce, recevoir ce qu'il veut nous donner. J'aimerais que l'on termine par la prière. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous parle, encore au travers de ta parole, cet après-midi, tu parles à chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu de compassion à notre égard. Tu l'as prouvé en donnant ta vie pour chacun d'entre nous, en donnant Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, encore cet après-midi, oui, considérer ce à quoi tu nous appelles, ce qu'il y a de plus important, la repentance. Considérer ce à quoi tu nous appelles, considérer ton œuvre, considérer la vie éternelle, considérer tes avertissements. Et Seigneur, tu connais la vie, le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie et je te supplie encore dans ces moments, afin que ton esprit agisse et afin que ta lumière éclaire. Afin que, Seigneur, ton esprit, oui, éclaire les vies, éclaire les cœurs. Parce que c'est toi qui convainc, c'est toi qui confirme ta parole, c'est toi qui agis dans les cœurs. Seigneur, mais nous voyons encore que tu es celui qui met là tout à notre disposition. Je te prie vraiment afin que, oui, nous puissions prendre compte et prendre vraiment garde à ces avertissements. Prendre en considération que tu es ce Dieu qui, encore aujourd'hui, patiente afin que nous parvenions à la repentance, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Merci pour ta grâce. Oui, merci pour ta patience. Et nous savons que cette patience, elle a des limites. Alors je te prie vraiment afin que chacun d'entre nous, nous puissions considérer cela et ne pas repartir de ce lieu sans être pardonné, sans avoir fait la paix avec toi. Merci Seigneur, parce que oui, tu mets là tout à notre disposition pour cela. Amen.